Une heureuse initiative des autorités municipales et scolaires de la ville.
On m'a transmis un reportage qui avait été fait à Romont en 1964. C'était la première école de Suisse romande qui avait acheté une télé pour l'école.
Et de suivre tout à leur aise les émissions de télévision, et ceci dans un cadre approprié.
Puis interroger les gens du village, puis ils disaient « ça va brûler les yeux des enfants, ils vont tous être idiots, l'école, la télé n'a rien à faire dans une école ». Et je me suis dit « mais c'est le même débat qu'aujourd'hui ».
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue numérique. Je m'appelle Patricia Michaud et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la version francophone du podcast. Aujourd'hui, il y est question de la transformation numérique du système de formation. Pour en discuter, je m'entretiens avec Sylvie Bonvin-Sansenance, conseillère d'État fribourgeoise en charge de l'instruction publique et donc chargée de l'ensemble du système de formation de son canton, de l'école obligatoire à l'enseignement supérieur, en passant par la formation professionnelle et la formation continue. Cette politicienne verte est également membre du comité de la CDIP, la conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique. Comme nous venons de l'entendre en introduction, on débattait déjà dans les années 1960 de la place que devait occuper l'écran à l'école. Aujourd'hui, il n'est bien sûr plus question de télévision, mais d'ordinateur, de tablette, de smartphone, ainsi que des multiples applications et fonctionnalités que ces appareils mettent à disposition. Ce débat, Sylvie Bonvin-Sansenance le connaît très bien. C'est en effet elle qui a négocié ces dernières années avec le Parlement fribourgeois la nouvelle stratégie cantonale en éducation numérique.
Ah, c'est un vrai casse-tête. Le travail de persuasion a été très très compliqué.
Dans notre entretien, elle m'explique quels sont les piliers de cette stratégie. Nous parlons également du Rechtigraben numérique qui divise les écoles du canton de Fribourg, ainsi que de la manière dont les outils numériques peuvent être intégrés avec succès dans l'enseignement.
Dialogue numérique, le podcast du Programme national de recherche sur la transformation numérique, le PNR 77. Le PNR 77 a étudié à travers différents projets de recherche comment la numérisation transforme notre société. Dans ce podcast, nous discutons des résultats avec des spécialistes issus des milieux politiques, éducatifs et économiques.
Bonjour Sylvie Bonvin-Sansenance et merci d'avoir accepté cet entretien sur la transformation numérique du système suisse de formation.
Bonjour.
Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas emmené de téléphone dans cette salle d'entretien. Pas besoin de vous demander de passer en mode avion. J'imagine que vous avez néanmoins pas mal de réflexes numériques au quotidien, comme la plupart d'entre nous. Il est environ 14h. Alors, quelles ont été vos principales activités numériques depuis, depuis ce matin, au réveil?
Alors, la première, c'est en général de lire les journaux sur le téléphone ou sur la tablette à la maison. Ensuite, c'est les activités d'agenda. Une anecdote, ce matin, nous avions une conférence de presse avec tout le Conseil d'État et il nous a été signifié que c'était mieux de ne pas prendre d'ordinateur ou de téléphone pendant la conférence de presse parce que les journalistes s'étaient sentis un peu ignorés pendant la conférence de presse, c'est-à-dire que tous les conseillers d'État sont sur leur ordinateur pendant qu'un autre parle et ils trouvaient ça pas très agréable. Donc, nous avons eu la demande particulière de ne pas prendre nos outils numériques pendant la conférence de presse. Donc, on voit qu'il y a quand même maintenant des limites qui se posent quant le fait d'être obnubilé par ces outils.
Les parents, les enseignantes, les enseignants aussi d'ailleurs, entendent deux messages. D'une part, les enfants, les jeunes passent trop de temps devant les écrans. D'autre part, il faut accélérer la numérisation de l'école. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire?
Oui, effectivement, c'est le message contradictoire que nous entendons, mais c'est pas le seul message contradictoire que l'école entend. Je crois que les enseignants sont submergés de messages contradictoires entre ce que la société veut, ce qu'ils sont capables de faire. Ils doivent tout inclure, ils doivent différencier, ils doivent former pour le futur, ils doivent former pour maintenant. Enfin bref, le monde enseignant est rempli de demandes contradictoires. Cette demande-là est très courante. On l'a beaucoup entendu du reste pendant la mise en place de notre stratégie numérique à l'école. Ce qui nous a étonnés, c'est que du côté germanophone du canton, et là, c'est intéressant dans le canton de Fribourg parce qu'on a vraiment deux cultures par rapport au numérique. Du côté germanophone, on a considéré ces outils numériques comme de simples outils pour enseigner et pour apprendre. Du côté francophone, il y a eu une vraie levée de boucliers, il y a eu une vraie interrogation, mais une forte opposition aussi concernant le temps d'écran. Pour les parents, c'était trop de temps d'écran, pour les parents francophones. Pour les parents germanophones, c'était un outil de plus, et c'était utile pour l'avenir de leurs enfants. Et on a dû un peu gérer ces contradictions, ces incompréhensions, on va dire, et ça s'est aussi ressenti au Grand Conseil quand il a fallu voter les budgets. Pour ma part, je pense que c'est faux de réduire l'outil numérique à la formation avec un seul temps d'écran, parce qu'on fait beaucoup d'activités débranchées, on fait aussi beaucoup d'activités numériques sans même un outil numérique, donc avec des petits robots, avec des jeux en bois, même suivre une recette de cuisine, au fond, c'est faire du numérique. Et je sais que je suis allée visiter une nouvelle école enfantine 1-2H à Marly, et le directeur m'ouvre une porte et dit « là, c'est notre nouvelle salle du numérique ». Et puis en fait, c'était une petite cuisine adaptée aux enfants avec des petites tables de travail, des petites plaques, des ustensiles de cuisine. Et il a dit « c'est là qu'on va faire nos premières activités numériques ». Et c'était en fait de faire de la cuisine. Donc en fait, je crois qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est le numérique à l'école. Il se décline sous plein de formes. Et on doit vraiment travailler avec les parents pour leur expliquer cela. Et on l'a vu aussi quand on a commencé à former les enseignants pour cette nouvelle discipline qu'est l'éducation numérique. Du côté germanophone, c'était déjà fait, puisque c'était déjà dans le Lehrplan 21,
qui est donc le plan d'études,
côté germanophone. Voilà. Et du côté du plan d'études roman, le PER, il n'y avait pas encore. Et quand on a commencé à former les enseignants, on a commencé par les enseignants 1-2H, et l'appréhension est tombée. Tout d'un coup, ils ont compris de quoi on parlait, et tout d'un coup, il y a eu une acceptation. Mais c'est venu par la formation des enseignantes et des enseignants, qui ont pu, en plus, après, parler aux parents. Je pense que c'est surtout l'usage réfléchi que nous visons.
Alors, si on prend l'exemple du canton de Fribourg, quel est le niveau de compétences numériques des élèves et du corps enseignant?
Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, au S2, dans les gymnases et les collèges et les écoles de culture générale, le Covid a été un booster incroyable, puisqu'on allait mettre en place le BIOD, donc Bring Your Own Device, prends ton propre matériel pour les étudiantes et les étudiants. Ça avait l'air très compliqué de mettre en place. Finalement, le Covid est arrivé. En 3 semaines, tout le monde était équipé, tout le monde avait trouvé une tablette pour travailler en ligne ou travailler depuis la maison. Et je pense que s'il y a eu un effet positif du Covid, malheureusement, beaucoup de tristesse et de problèmes aussi, mais c'est ça, c'est que tout d'un coup, les étudiants, les enseignants du S2 se sont équipés très rapidement, et ils ont vu qu'ils pouvaient enseigner en ligne à des étudiantes et des étudiants plus âgés. Si bien qu'à Fribourg, on a été très avancé en termes de Bring Your Own Device, donc que les études sans papier, notamment au gymnase intercantonal de la Broye à Payerne, qui a été un des précurseurs depuis 2017, et ils travaillent sans papier pour les étudiantes et les étudiants, et l'expérience a été positive. Aujourd'hui, on peut même passer sa maturité sans papier, donc uniquement sur des outils numériques, donc, et à 99%, un taux de satisfaction extraordinaire et des résultats positifs. Donc ça fonctionne. On peut suivre des études sans papier dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, on doit passer au même projet Bring Your Own Device, mais pour les enseignantes et les enseignants.
En quoi est-ce que le fait que que ce soit justement les élèves, les étudiantes, les étudiants, les enseignantes, les enseignants puissent prendre leur propre matériel numérique à l'école, ou doivent même le prendre, en quoi est-ce que ça participe à une accélération de la transformation numérique de l'école ?
Bien, parce que ils sont demandeurs ensuite de logiciels, d'applications spécifiques, et puis on voit que petit à petit, ils commencent à partager, à créer des groupes entre eux de conversation. Ils peuvent aussi discuter, par exemple, de la place des traducteurs, de l'intelligence artificielle pour certains travaux. Et là, ça a eu une avancée incroyablement rapide sur ces questions. Est-ce qu'on permet dans les cours de langue d'utiliser les traducteurs, à quoi ça sert, comment les utiliser au mieux? Et puis, ce qu'il y a eu d'intéressant aussi, c'est qu'on a eu notre premier cas de tricherie à la matu avec l'intelligence artificielle, donc on doit aussi se préparer à ça, et puis permettre des contrôles dans ce sens-là.
Donc ça favorise en fait une transposition des compétences et des connaissances numériques acquises à l'école dans le quotidien et dans le travail scolaire à la maison, par exemple.
Absolument, oui. Et ce que je trouve J'assiste à beaucoup de cours où le numérique et le papier étaient ensemble, où le numérique était présent en tout cas, dans différents cours, la musique ou la biologie. Et puis on croit que c'est chacun dans son coin avec son outil numérique, et absolument pas. C'est des travaux de groupe, on prépare un petit exposé sur une thématique, on la présente à la fin, mais on a un outil numérique pour avoir des informations, préparer les pages, préparer les couleurs, les tableaux, qu'on va présenter à la fin aux autres. Donc finalement, ce que j'ai pu constater, c'est que le numérique, c'est pas forcément être tout seul derrière son écran, c'est vraiment des travaux de groupe.
Alors, on a tendance à faire le raccourci entre digital natives, donc cette génération native du numérique, et compétences numériques. Or, la recherche montre que ce n'est pas le cas, que même la nouvelle génération, dont on dit parfois que les smartphones sont une extension de leurs mains ou de leurs bras, doit acquérir ces compétences. Et d'ailleurs, un projet mené dans le cadre du PNR 77 montre, par exemple, qu'il y a un réel intérêt durant la scolarité obligatoire déjà à développer la pensée computationnelle des élèves. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on implante cela sur le terrain ?
J'aimerais dire tout d'abord que nous constatons effectivement une différence, en tout cas dans le canton de Fribourg, entre les élèves qui sortent des écoles germanophones ou francophones. Dans les écoles professionnelles, on nous a fait la remarque et le commentaire qu'ils voyaient une vraie différence de compétences numériques entre les germanophones et les francophones. On voit que le plan d'études germanophone est plus avancé dans ce sens-là, donc le résultat est là. Et ce qu'on constate surtout, c'est des inégalités de compétences entre les uns et les autres, non seulement entre les germanophones francophones, mais entre les élèves. Et je vois plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, par le fait que les élèves, les jeunes, utilisent surtout le numérique pour leurs loisirs. Au départ, ça a été ça. Et puis, il a fallu leur apprendre à utiliser un ordinateur dans un contexte professionnel. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à ce propos. Quand je suis allée voir les élèves du CO de Plan Fayon, où là, ils sont en one-to-one, donc chaque élève a sa tablette et beaucoup moins de papier.
Plan Fayon dans la partie germanophone, voilà. Hein, du canton.
Et là, je discute avec deux jeunes élèves, puis je leur dis, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous depuis que vous avez des tablettes à l'école, tout le temps ? Puis elles m'ont répondu, ah ben, quand on rentre à la maison, on a envie de faire d'autres choses que d'être sur son téléphone portable. On a envie d'aller faire du vélo, discuter avec les copines. Le numérique ou l'ordinateur, c'est pour l'école et le téléphone portable aussi. Après, on a envie de faire d'autres choses. Donc en fait, le fait de devenir quelque chose de scolaire et voire de professionnel, ça détruit un petit peu le côté transgressif, je pense, d'utilisation du numérique. Et je pense que c'est une petite victoire, à mon avis. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on constate aussi qu'on doit beaucoup enseigner aux élèves la manipulation dont ils pouvaient être victimes avec les interfaces, les grandes plateformes aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très, très grave à gérer, enfin, très important à gérer. On voit que les émotions sont prises par la machine et puis notamment avec TikTok et ces réseaux sociaux qui sont maintenant aussi questionnés, hein, on le voit même aux États-Unis. Ce que je constate aussi, c'est que la génération de nos élèves, eh bien, ont des parents qui ne sont pas du tout formés. Et j'ai l'impression que nous formons aujourd'hui les parents de demain. Et c'est souvent les élèves qui enseignent à leurs parents comment être un utilisateur responsable, avec un esprit critique surtout, sur ce qu'on leur propose dans le monde numérique.
Et c'est le rôle de l'école d'opérer ce genre de sensibilisation à la manipulation, par exemple ? Certains pourraient dire, certaines voix s'élèvent pour dire que c'est le rôle typiquement des parents, de la famille, du reste de la société.
Oui, alors je pense que le premier partenaire, c'est les parents. Ce sont les parents. Les parents, c'est leur premier rôle, mais on le voit, et c'est le cas bien expliqué dans la loi scolaire, c'est que l'école est là pour seconder les parents dans l'éducation. Et actuellement, comme les parents sont dépassés, on le voit, ça va tellement vite, que l'école, qui a plus de ressources aussi pour comprendre, pour gérer tout ça, n'est pas là que pour seconder, mais pour prendre un peu le lead et puis aider les parents qui sont demandeurs et qui sont désespérés, hein, dans bien des situations difficiles. Moi, je pense qu'il y a deux éléments, c'est vraiment développer les compétences numériques et l'esprit critique, qui est plus qu'un enjeu de société, c'est un enjeu de santé publique. On le voit avec des difficultés, surtout des jeunes filles, des difficultés mentales aussi, qui nous inquiètent, qui nous choquent. Et puis, c'est une question d'égalité des chances et de démocratie également.
Sylvie Bonvin-Sansonnens, vous êtes la responsable, la directrice de l'instruction publique dans le canton de Fribourg, canton bilingue. Vous l'avez dit, on constate une différence, on pourrait parler de ce fameux Rösti-Graben, de compétences et de connaissances numériques entre les élèves, les étudiants et étudiantes germanophones et francophones, en tout cas dans votre canton. Vous avez évoqué une différence entre les plans d'études, donc c'est, si j'ai bien compris, qui est le principal générateur de ce Rösti-Graben. Qu'est-ce qu'ils contiennent alors, qui est tellement différent, ces plans d'études
Alors, le plan d'études germanophone, le Lehrplan 21, est plus récent que notre plan d'études roman et il englobait déjà la discipline éducation numérique, comme la géographie, l'anglais, l'allemand. Le plan d'études avait déjà cette discipline. Et donc, quand ils ont mis en place le plan d'études, il y a 5-6 ans, eh bien, l'éducation numérique était déjà présente dans le plan d'études. Donc, ils l'ont mis en route avec les autres disciplines du nouveau plan d'études. Tandis que le plan d'études roman est plus ancien, il y a une vingtaine, 15-20 ans, et il n'avait pas cette discipline éducation numérique qui a dû être rajoutée. Donc, c'est le devoir maintenant assez rapide de tous les cantons romans de mettre en place cette nouvelle discipline dans la grille horaire, c'est-à-dire qu'on doit rajouter dans la grille horaire une discipline qui s'appelle éducation numérique. Et d'abord, il a fallu évidemment former les enseignants. Nous arrivons au bout de la formation des enseignants jusqu'à la 8H, et puis après, jusqu'à la 11H, ça va être une autre étape. Et une fois qu'on aura les enseignants formés, on va pouvoir mettre cette nouvelle grille horaire en place avec cette nouvelle discipline,
qui se décline
sous différentes manières, comme je l'ai dit, aussi majoritairement pour les plus petits, débranchés.
Le processus est en cours, et là, au niveau roman, on est bien d'accord.
Au niveau roman, chaque canton avance un peu différemment, mais on voit une différence culturelle avec les germanophones, et on le voit bien, par exemple, en Valais ou chez nous à Fribourg, cette différence culturelle d'approche du numérique à l'école. Il y avait une dimension extrêmement éthique, écologique, ce que je peux comprendre, il y avait des craintes énormes qui ont été exprimées ici du côté francophone. L'étape politique, ça a été évidemment de savoir, comme le matériel, on doit maintenant équiper les écoles différemment, il a fallu faire une stratégie pour l'équipement matériel des écoles, des élèves, des enseignants. Et c'est là aussi où on a buté sur la culture la culture latine, puisque les députés au Grand Conseil nous disaient « mais ils n'ont pas besoin d'ordinateur ». Eux, ils voyaient toujours la salle informatique d'autrefois où on essaye d'allumer notre ordinateur, on a des cours pendant 45 minutes, puis après on arrête. Tandis que nous, c'était différent, la volonté qu'on a mis en place, c'était plutôt l'éducation au numérique et par le numérique. C'est-à-dire, on apprend à utiliser des outils numériques en faisant du français, en faisant de la musique, en faisant de l'allemand.
Promouvoir l'acquisition, le développement et la mise à jour régulière des compétences numériques, et ce tout au long de la vie, à tous les niveaux d'éducation, c'est l'une des impulsions du comité directeur du programme national de recherche 77. Comment est-ce qu'on assure cette continuité tout au long du parcours de formation? Comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des trous au fond?
Je pense que le plan d'études nous garantit en tout cas que la discipline est présente tout au long de la formation obligatoire. Et ensuite, je pense que c'est l'impulsion de la société aussi qui fait que aujourd'hui, l'école, les universités, les hautes écoles, mais aussi le secondaire 2, constatent que c'est un outil présent partout, donc il faut l'intégrer dans toute forme d'enseignement. Et puis la société est demandeuse. Par exemple, je suis allée visiter les locaux de la Haute École de Santé, donc là on forme les infirmières et infirmiers, et les responsables du numérique dans le futur travail des infirmiers et des infirmières me disaient que aujourd'hui, dans les hôpitaux, les infirmières et les infirmières trouvaient qu'on faisait beaucoup trop d'administratifs avec ces outils numériques. Mais c'est parce qu'en fait les gens étaient mal formés, les anciens qui ont été formés il y a longtemps, ils ne sont pas formés à l'utilisation de ces outils numériques dans leur travail. Et aujourd'hui, les jeunes qu'ils forment où ces outils numériques sont omniprésents, eh bien, pour eux, ce n'est pas un problème de les utiliser. Et ils n'ont plus l'impression, comme il y a eu une sorte de génération où on a beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup trop d'administratif. En fait, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas été formés à l'utilisation de ces outils dans leur propre travail. Et quand on discute avec eux, comme les enseignants du reste, nous disent « Ah, mais je n'ai pas été formé pour ce métier-là ». Effectivement, la partie numérique n'était pas présente quand ils ont été formés et aujourd'hui, ils doivent rattraper une sorte de retard que n'auront pas les jeunes d'aujourd'hui. Et je pense que ça va faciliter le maintien des infirmiers et des infirmières dans leur profession parce que c'est adapté aux demandes actuelles.
Qu'est-ce qu'on fait pour combler ce retard? On attend que toutes ces personnes partent à la retraite? Problem solved?
Non, je pense que c'est un vrai enjeu aussi, non pas de de l'école, mais de la formation de base des adultes, qui a une vraie mission d'instruction publique. C'est un grand enjeu. Nous ici, dans le canton de Fribourg, à la direction de la formation, nous nous occupons également de cette partie-là de l'instruction publique, c'est-à-dire la formation de base des adultes qui malgré leur passage à l'école, ne savent ni lire, ni écrire, ni utiliser des outils numériques. Et c'est une mission que l'on donne à des associations compétentes pour le faire. Et il y a énormément de demandes. Et étonnamment, notre service de la formation des adultes nous disait que c'était surtout les femmes qui venaient demander de l'aide, parce qu'en fait, elles osaient dire qu'elles ne savaient pas. Donc là, on voit aussi un fossé de genre. Les hommes ont moins tendance à avouer qu'ils ne savent pas utiliser les outils numériques.
Je vous propose une petite e-respiration, en l'occurrence de tester votre propre degré de numérisation à travers une petite partie de « tu préfères ». Je vais vous donner systématiquement deux possibilités et puis vous me répondrez en fonction de vos pratiques personnelles. Est-ce que vous êtes plutôt argent liquide ou Twint ?
Argent liquide.
Online banking ou paiement au guichet de la poste ?
Online banking.
Email ou lettre ?
J'adore les lettres, mais mon travail fait que je fais beaucoup d'emails.
Cinéma ou streaming ?
Streaming.
Liseuse ou livre papier ?
Livre papier.
Shopping en ligne ? Achat en magasin ?
Shopping en ligne.
Vos billets de concert, par exemple, forme imprimée ou sur votre smartphone ?
Imprimée.
À votre poignet, une smartwatch ou une montre standard ?
Une montre standard.
Les nouveaux objets, réglage d'usine ou configuration personnelle ?
Réglage d'usine.
Est-ce que vous écoutez de la musique en streaming ou sur un support audio ?
Support audio.
Sylvie Bonvin-Sansenance, le Conseil d'État fribourgeois a décidé de développer une stratégie cantonale en éducation numérique pour la scolarité obligatoire ordinaire et spécialisée, donc cette stratégie EDNUM. Quels sont les axes principaux de cette stratégie ?
L'idée du Conseil d'État, c'était de convaincre les députés d'accepter notre stratégie numérique qui avait deux axes. Tout d'abord, c'était la mise en place de la discipline éducation numérique dans les écoles francophones, puisque du côté germanophone, c'était déjà fait. On s'est concentré sur les écoles francophones et le plan d'études roman. Le deuxième axe, c'était la formation des enseignants. Et le troisième axe, c'était qui paye quoi dans les outils numériques qu'il fallait dont on devait équiper les classes. Donc, notre stratégie n'était plus est-ce qu'on allait mettre en place l'éducation numérique ou pas, on devait le faire. Donc, quand les députés ont compris ça, ça a été plus facile pour se dire, alors avec les communes ou nous, qui paye quoi ? Qui paye les outils numériques et combien ?
Quelles sont les principales oppositions auxquelles vous vous êtes heurtés ?
Alors, c'est le nombre. Le nombre d'outils numériques par classe, les députés se sont investis de cette mission de limiter en interdisant les outils numériques pour les plus petits, en limitant strictement le nombre d'outils numériques à payer dans les classes moyennes et puis finalement à évoluer petit à petit, sachant que au final, ça restera quand même les communes qui paieront les outils numériques. Donc j'imagine que les communes vont faire un peu comme elles veulent, les plus généreuses vont mieux équiper leur école que d'autres. Mais nous avons au moins réussi à fixer un minimum.
Où est-ce qu'on est concrètement sur dans l'agenda politique sur ce dossier ?
Alors, donc la décision a été prise. Maintenant, en raison des restrictions budgétaires que nous avons dû mettre en place dans le canton de Fribourg, le début de cette stratégie a été reporté en 2029. Donc actuellement, c'est le statu quo, c'est-à-dire que c'est toujours les communes qui payent les matériels numériques dans les écoles et également celui des enseignants. Parce que l'idée, c'était que l'État paye les outils numériques pour leur personnel, que sont les enseignants, mais cela a été reporté à 2029.
On entend bien dans vos propos pour une conseillère d'État en charge de l'instruction publique. On doit, dans un tel paquet stratégique, concilier la durabilité, l'inclusivité, les contraintes financières, le bilinguisme, dans le cas de votre canton. C'est un vrai casse-tête ?
Ah, c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête parce que les arguments ne faisaient pas mouche à chaque fois et selon le public que nous avions en face de nous. Donc, le travail de persuasion a été très, très compliqué. Et il y avait un blocage, je dirais, moral, éthique, émotionnel, contre lequel il était difficile de lutter.
L'une des impulsions du comité directeur du PNR 77 est de renforcer à tous les niveaux, et ce en continu, les compétences numériques du personnel enseignant. Alors, il y a un travail, un grand travail qui a été fait dans ce sens, dans le canton de Fribourg. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement ?
Oui, alors l'idée, ça avait été de former des enseignants qui forment leurs collègues. Je pense que c'était une bonne idée, c'était pas des grands experts du numérique qui débarquent dans les écoles et puis qui montrent tout facile comment ça se passe. L'idée, c'était de former des enseignants plus ou moins intéressés, mais pas forcément les geeks, les plus geeks d'entre eux, à former leurs collègues parce qu'ils étaient aptes à donner des réponses concrètes, des réponses de terrain, de quoi tu as besoin pour faire ton heure d'éducation numérique, voici quels outils tu peux utiliser, ça marche, ça ne marche pas bien. Et je pense que là, il y a eu un revirement chez les enseignants quand ils ont vu que des collègues, aussi des femmes, énormément de femmes, qui se sont intéressées à former leurs collègues. Et ça, j'ai trouvé que c'est ça qui a fonctionné, ça a été notre stratégie. Et puis de commencer depuis les 1H, petit à petit, jusqu'au plus grand. Et il y a eu un effet de groupe qui a été très positif. Aujourd'hui, je pense que le pari est gagné. J'ai eu que des retours positifs sur cette formation. Celles et ceux qui avaient le plus peur aujourd'hui sont acquis et se sentent capables. En fait, je crois qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes, sur leurs compétences numériques, et on a pu renforcer leur confiance en eux.
Au-delà d'une intégration structurée des compétences numériques dans les apprentissages et la philosophie éducative, le comité directeur du PNR 77 évoque l'instauration d'une vraie culture du changement transformatif dans le système de formation suisse, et ce, tout niveau confondu. C'est seulement ainsi qu'on peut éviter que la numérisation devienne un ajout superflu plutôt qu'une force transformatrice. Est-ce que là, il y a des exemples dans le canton de Fribourg qu'on pourrait citer, où on a opéré, on est allé vraiment au-delà de cet équipement et cette formation numérique et qu'on l'a intégré dans une culture de changement transformatif?
Dans les CO germanophones, j'ai pu constater cette culture du changement efficace. Concrète,
CO, donc les cycles d'orientation.
Là où, en fait, le plan d'études était plus avancé. Et grâce à la discussion des directions d'école avec leur association des communes, et c'est là où elles ont joué un rôle très précieux, ces associations de communes, qui ont accepté de tenter le défi d'équiper les écoles en cherchant des solutions, par exemple en faisant des lisines avec des entreprises locales. Ils ont développé leurs propres solutions jusqu'à ce qu'on demande que ça soit l'aide qui prenne en main le financement de ces outils. Mais je crois qu'à Fribourg, ouais, c'est vraiment du côté germanophone que j'ai vu des vrais changements, et j'ai trouvé vraiment très intéressant comme les enseignants se sont engagés à développer ces outils-là dans leurs cours.
Vous avez évoqué des processus de collaboration avec des entreprises, donc une forme de co-création entre le domaine de la formation et l'économie, par exemple. Ça s'inscrit dans un phénomène finalement plus large de mise en place d'une sorte d'écosystème EdTech, au fond, pour avancer main dans la main et créer justement un univers, un écosystème de la formation numérique. Est-ce que ça peut se faire à l'échelle d'un canton où là, on doit vraiment voir plus large, avoir cette vision macro, se dire, tiens, à l'échelle suisse, il faudrait mettre en place une structure avec des partenariats entre la formation, entre la politique, entre l'économie?
Je pense qu'il faut toujours essayer de placer l'école dans la cité, c'est-à-dire que l'école n'est pas un milieu sanctuarisé, fermé, elle doit vraiment s'inscrire dans l'économie locale. Et je pense que ça peut fonctionner parce que cette économie locale aura aussi besoin de ressources humaines, donc d'élèves qui s'orientent vers ces métiers, et de penser qu'il y a un terreau professionnel aussi autour de l'école. Je pense que c'est important de le lier. Et dans le cas présent du côté germanophone, effectivement, ils ont travaillé avec des supports locaux, des entreprises locales, avec des soutiens techniques de personnes de la région. Donc ça a été très important et très apprécié. Et c'est d'ailleurs ce qui a été voulu encore par les députés du Grand Conseil.
Dans quelle mesure est-ce que la numérisation de la formation change le visage de tout le système éducatif? C'est vraiment toute notre école, justement, pas toute notre formation qui est en train de se modifier.
Alors, le numérique, pour moi, est un outil d'enseignement, un outil de formation. C'est une évolution, mais ce n'est pas une révolution. Ce qui serait la vraie révolution, c'est l'intelligence artificielle. qui est aujourd'hui en marche. Est-ce que les métiers pour lesquels nous préparons les jeunes d'aujourd'hui seront toujours valables demain? Est-ce que ça sera plutôt des métiers manuels plutôt que des métiers de réflexion? Je pense que là, on est un peu dans le flou. Et je trouve urgent que nous nous mettions ensemble pour définir un petit peu les contours de cette révolution, cette fois, qu'est l'intelligence artificielle.
Donc, c'est vraiment là que vous voyez le principal
défi,
mais aussi le principal potentiel de transformation.
Tout à fait. Et on l'a vu aussi dans la discussion avec les réseaux sociaux au Grand Conseil. Le téléphone portable, les jeunes en ont besoin pour acheter leur repas à la cantine, pour acheter leur billet de bus. L'outil reste nécessaire à leur vie de citoyen et on doit les former à utiliser ces outils. C'est ce qu'on met à l'intérieur qui est toxique, c'est les réseaux sociaux. Mais l'école n'a pas de prise sur ces réseaux sociaux, c'est à l'extérieur que ça se passe. Et je crois qu'il ne faut pas confondre l'outil numérique avec ce qu'on y met dedans, avec son contenu. Et on doit gérer les contenus, surtout. Mais l'outil numérique est absolument indispensable à la formation pour le futur.
Sylvie Bonvin, sans son nom, vous êtes membre des Vertes Suisses. Quelles sont les principales chances offertes par la transformation numérique de l'éducation en termes de durabilité, à votre avis?
L'accent que j'ai voulu mettre sur notre stratégie en tant que Verte, c'était surtout l'égalité des chances. Il y a beaucoup d'inégalités aujourd'hui dans les écoles, dans les familles, et l'idée, c'était que l'école, en équipant les jeunes et en les formant à l'esprit critique et à la démocratie, puisse bénéficier chacune et chacun de la chance d'être formée pour le futur. Donc, c'était surtout cet accent-là que j'ai mis, l'égalité des chances, qui est un des points du développement durable.
Dans un contexte de numérisation galopante et d'avancées technologiques qui sont rapidissimes, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'école reste à la pointe, que les stratégies qui sont mises en place ne soient pas trop vite périmées? Comment est-ce qu'on demeure agile alors que sur le plan politique, tout prend beaucoup de temps, justement?
Je pense que c'est un domaine qu'il faut suivre de près, toujours être dans la persuasion de l'autre. J'assiste à l'évolution de différents milieux avec des rythmes différents, le rythme politique, le rythme scolaire, le rythme technologique. Et il est très difficile de concilier tout cela, aussi avec des générations différentes, et puis aussi la volonté de certains de sanctuariser les écoles, de les rendre totalement imperméables à l'évolution technologique en pensant que ça va brûler les yeux des enfants ou rendre tout le monde idiot, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconciliables à concilier. C'est marrant parce que j'ai vu, pendant qu'on était plein dans la discussion politique, on m'a transmis un reportage qui avait été fait à Romont en 1964. C'était en noir et blanc, une émission de la télévision suisse romande, où c'était la première école de Suisse romande qui avait acheté une télé pour l'école. Déjà, on voyait qu'il y avait un mètre de neige dans la cour d'école, ce qu'il n'y aura plus jamais maintenant, ça m'avait aussi émue. Et puis, c'était en noir et blanc, il y avait l'enseignant avec sa blouse bleue, et puis les élèves alignés, les bras croisés, qui regardaient la télé pendant les cours, parce qu'ils montraient une émission, ou je ne sais pas, une course de ski, ou je ne sais pas ce qu'ils leur montraient. Puis ils interrogeaient les gens du village, puis ils disaient « ça va brûler les yeux des enfants, ils vont tous être idiots, l'école, la télé n'a rien à faire dans une école ». Et je me suis dit « mais c'est le même débat qu'aujourd'hui ». Et aujourd'hui, les écrans pour présenter des films ou des documentaires à l'école, c'est quelque chose de totalement acquis, donc on voit que les choses évoluent quand même. Même à Fribourg.
Nous arrivons au terme de cet échange consacré à la transformation numérique du système suisse de formation. Alors, quel sera votre premier réflexe numérique après cette interview?
Je pense que c'est d'aller contrôler mes emails, parce que ça avance toujours, j'en ai toujours plein après une heure sans ordinateur.
Alors, vous avez bravement laissé votre téléphone portable hors de la salle d'interview. Quelle est l'app dont vous ne pourriez plus vous passer sur votre smartphone?
J'adore l'app CFF. Je trouve que c'était tellement difficile autrefois d'être sûr d'avoir son billet pour le bon train, pour la bonne heure. Aujourd'hui, c'est tellement facile de prendre un billet avant de monter dans un train. Je trouve qu'elle est géniale.
Resquiller n'est presque plus possible.
Ouais, tout à fait.
À l'inverse, est-ce qu'il y a une app qui vous paraît inutile, celle que vous devriez poubelliser depuis longtemps?
Alors, j'aimerais bien, c'est pas que je vais le faire, mais j'aimerais bien ne plus avoir besoin du traducteur en allemand. Je contrôle quand même certains mots quand je vais du côté germanophone de ce canton pour être sûre de ne pas dire de bêtises. J'aimerais pouvoir m'en passer et puis pouvoir être sûre de moi dans la langue de Goethe.
Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci à vous.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la transformation numérique dans l'éducation, ne manquez pas un autre épisode du podcast Dialogue numérique, durant lequel mon collègue Hannes Hug s'est entretenu, en allemand, avec Andreas Klausing, directeur adjoint d'EDUCA, l'agence spécialisée dans l'espace numérique de formation en Suisse. Pour davantage d'informations sur le PNR 77, ainsi que sur les résultats émanant des divers projets de recherche liés, rendez-vous sur pnr77.ch.
Dialogue numérique. Le podcast du Programme national de recherche sur la transformation numérique, le PNR 77. Rédaction, Patricia Michaud et Lucia Vazella. Animation, Patricia Michaud. Production, Lucia Vazella. Idées et concepts, Advocacy et Podcast Schmidt.